voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Johanna Bedeau rencontre Daniel Zaguri. Ce soir, le procès pénal.
Psychiatre et psychanalyste, Daniel Zaguri, vous êtes aussi expert auprès des tribunaux. Sollicité pour les grandes affaires criminelles, vous êtes amené régulièrement à rencontrer des tueurs en série, mais aussi des terroristes. Dans un état qui préfère punir que guérir, vous restez avant tout attaché à la clinique, en cherchant à faire connaître les caractéristiques, les aspects particuliers de la personnalité, les circonstances et les mobiles affectifs qui déclenchent une telle conduite. Tout l'enjeu, dites-vous, est de regarder le mal en face en entrant en relation avec l'autre, sans aucune fascination. C'est toujours un défi pour vous, Daniel Zaguri, un procès ? Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent comme ça régulièrement ?
Effectivement, c'est pratiquement toujours les mêmes questions, c'est pratiquement toujours d'ailleurs le même embarras pour essayer de rendre compte de la complexité d'un fonctionnement mental en situation.
J'imagine que lorsque l'expertise va dans le sens contraire de l'avocat, il doit la disqualifier très violemment, et au contraire, quand ça va dans le sens de son client, il s'appuie dessus.
Évidemment. Je dois vous faire une confidence. Je ne reste jamais pour les plaidoiries et les réquisitoires. Donc, en général, on peut pas rester 3 jours. On vient, on fait notre prestation et puis on s'en va. Mais j'ai toujours eu le sentiment que si je restais, je serais très déprimé parce que je verrais comment les parties s'emparent de ce qu'on leur a fourni dans un sens ou dans un autre. On pense, à tort, à mon avis, que éclairer et comprendre fait le lit de l'excuse. Comme si les jurés qui auraient une perception de quelque chose, qui aurait au moins en partie échappé à la personne, ça les conduirait à atténuer la peine. Donc ça, c'est très pénible d'avoir à se justifier, de ne pas avoir été manipulé, si vous voulez. Alors l'expert psychiatre, parfois, donc c'est celui qui vient avec une sorte d'humanisme bêlant défendre le sujet qui a commis un crime épouvantable. À l'inverse, c'est aussi celui qui peut passer à côté de tous ces aspects humains et être du côté de l'accusation. Donc on peut effectivement être tiré à hue et à dia. Le psychiatre, c'est communément, c'est celui pour qui tout le monde est fou. C'est ce qui circule comme ça, et avec la peur que son regard, en quelque sorte transfixiant, va déceler la pathologie des uns et des autres. Mais je dirais, à l'inverse, le psychiatre, c'est celui qui vient vous expliquer que quelqu'un qui a commis un crime abominable et dont on a envie de penser que c'est un monstre, un malade, que c'est un psychopathe, que c'est un pervers, est quelqu'un de banalement normal. C'est ça le vrai scandale. Alors je peux vous donner un exemple si vous voulez. C'est l'exemple du découpage du corps. Bon. Quand j'étais un jeune expert, je pensais que pour découper un corps humain après un crime, il fallait nécessairement être un grand psychopathe, pervers, ou un malade mental délirant, et que c'était en quelque sorte des gestes qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Eh bien, l'expérience m'a montré le contraire. C'est-à-dire que lorsque, dans un moment passionnel, quelqu'un a tué sa femme, son conjoint, bagarre, peu importe, et qu'il se trouve devant la question de se rendre ou de ne pas se rendre à la police, il se pose la question du cadavre, comme dans n'importe quel roman policier, comme dans n'importe quelle série télévisée. Et découper le corps est l'une des manières de se débarrasser du corps. Et l'expérience m'a montré que des gens assez ordinaires, qui avaient commis un crime passionnel, dans ces moments-là, étaient à même de le faire parce que des mécanismes psychiques d'adaptation viennent à leur secours, volent à leur secours. C'est-à-dire qu'ils vont le faire sans y être, ils vont le faire dans un état quasi dissociatif, ils n'en garderont que des flashs, ils vont le faire dans une espèce de robotisation, d'automatisation, mais ils vont le faire. Et l'expérience montre que des personnalités assez diverses sont à même de le faire. Je me souviens d'une grand-mère que j'avais appelée Mamie Tronçonneuse, qui avait tronçonné son papy. Alors évidemment, Quand vous dites ça à un jury d'assises, c'est entendu par les jurés, enfin j'imagine, parce que je ne suis pas dans leur tête, c'est comme nous aussi on pourrait le faire. Or, c'est quelque chose d'extrêmement choquant, et on se heurte quand même assez souvent des réactions qui ne sont pas des réactions d'assentiment.
Qu'attend-on de vous, expert au procès pénal dans une affaire d'État comme l'affaire Cabou, Daniel Zaguri ?
Ah, alors, l'affaire Cabou. Alors, je ne dirais pas que c'était une affaire d'État, parce que des affaires d'État, j'en ai connu. Des affaires d'État, c'est quand Nicolas Sarkozy fait un discours, Rachida Dati en fait un, et qu'ensuite ça arrive au niveau des assises. Ça, c'est une affaire d'État. L'affaire Cabou, c'était pas une affaire d'État, c'était une affaire qui a fasciné le public. Et on peut très bien le comprendre. Voilà une jeune femme très belle, très intelligente, avec un QI supérieur, avec une formation philosophique, qui amène son enfant à Berck, après tout un périple, depuis une banlieue cossue, laisse son enfant sur la plage et s'en va. Il y a là, je dirais, un ensemble d'images complètement sidérantes. Et le public ne s'y est pas trompé, il s'est beaucoup intéressé à cette affaire, et j'ai dit, lors du procès, qu'il fallait essayer d'être à la hauteur de la compréhension de ce cas. Effectivement, j'ai dit que c'était un procès historique. Alors je sais, parce que je l'ai lu dans la presse ultérieurement, que l'avocat général s'est beaucoup moqué de moi, comme si j'avais dit que je voulais rentrer dans l'histoire. Évidemment, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que c'était un procès historique compte tenu de la réaction sociale. Il y avait tous les journaux de France et de Navarre. Il y avait tous les journalistes de toutes les radios et de toutes les télévisions. C'était pour ça que j'ai dit que c'était un procès historique. Donc, je disais qu'il fallait être à la hauteur du cas. Et c'est vrai que il y avait une difficulté majeure. C'est que pour nous psychiatres, pour nous trois, enfin du collège qui l'avait examiné, je ne parle pas des autres experts, il y a quelque chose qui nous est apparu, c'est-à-dire qu'il y avait une pathologie psychiatrique manifeste que nous avons développée, mais il y avait un tout petit reste de conscience. Elle écrivait sur un carnet tous les jours, et donc elle disait « tu le fais pas », elle évoquait son hésitation. Donc les critères de l'abolition du discernement ne nous paraissait pas présent, et nous avons laissé un petit reste, en quelque sorte, de discernement et de responsabilité. Mais que peut faire la cour d'assises d'un petit reste ? C'était là toute la difficulté, avec redoublé de l'idée qu'une femme aussi intelligente ne pouvait pas avoir commis un acte criminel sans en avoir conscience. Et donc j'ai essayé de rappeler à la cour d'assises que le fou le plus célèbre de l'histoire, c'est le président Schreiber. Et le président Schreiber qui était président de la chambre de la cour d'appel de Dresde. Donc vous voyez que l'intelligence n'a rien à voir avec le fait de basculer dans la maladie mentale ou pas. Vous savez, Paul Valéry disait « le plus profond chez l'homme, c'est la peau ». Et moi j'ai l'habitude de dire « le plus profond dans la clinique, c'est l'analyse des surfaces ». C'est-à-dire que on ne peut pas court-circuiter cette analyse des surfaces pour aller directement aux profondeurs et à la structure. Ce qui, à mon avis, a été l'erreur des psychologues. Ça n'est encore une fois que mon avis. Donc quand on analysait les surfaces, c'est-à-dire quand on faisait un simple recueil sémiologique, cette femme rapporter des modifications de son corps propre, un sentiment d'emprise à distance, elle était poussée, elle avait des intuitions, elle avait des interprétations délirantes, le monde se modifiait autour d'elle, elle essayait de comprendre, elle a cherché des réponses dans la sorcellerie, alors on dit « Ah, donc c'est donc un problème ethnopsychiatrique ». Non, c'est pas un problème ethnopsychiatrique. Donc, il y avait une sémiologie extrêmement riche de l'ordre de la psychose paranoïaque, et l'idée d'une simulation d'un tel tableau avec une telle évolution et avec autant de témoignages convergents de la part de tiers est une totale absurdité. Et je m'étonne d'ailleurs qu'on puisse soulever de telles énormités dans des procès.
Est-ce que vous pourriez nous dire, je ne sais pas si on peut poser cette question, mais ce n'est pas grave, je le fais quand même, il y a combien de types de criminels ?
Moi, ce que je trouve passionnant dans la psychiatrie légale et dans la criminologie clinique, c'est que on nous interroge beaucoup plus sur des processus, sur des mouvements, sur une dynamique que sur des états. C'est beaucoup plus un film qu'une photographie. Il faut essayer d'éclairer le jury sur les mouvements qui ont animé la personne. C'est beaucoup plus intéressant que de dire elle appartient à telle ou telle catégorie classificatoire.
Il y a quand même les malades mentaux criminels.
Absolument, mais il y a absolument. Il y a au cœur de la psychiatrie légale des schizophrènes qui tuent pour des raisons délirantes, des paranoïaques qui tuent, des mélancoliques qui se suicident, qui éventuellement entraînent leurs enfants dans le suicide, etc., etc. Donc on peut décrire des grandes typologies. Mais attention. Le vrai scandale pour l'opinion publique, c'est que des personnes qui n'étaient pas a priori faites pour être retrouvées dans la rubrique des faits divers, ben, y sont. Et c'est ça qui est plus angoissant, mais c'est une réalité. Et à ce moment-là, le plus important, c'est d'essayer de rendre compte des processus, des enchaînements, des dynamiques qui font qu'une personne a priori au départ ordinaire va être conduite jusqu'au crime.
Au final, Daniel Zaguri, cette femme, qu'est-ce qu'on a dit d'elle ?
Je pense qu'il y a eu la fascination, il y a eu le doute, et la plupart des chroniques que j'ai pu lire, à la fin, aboutissaient à la même constatation de la réalité de la maladie mentale. Les uns diront pour une fois... D'autres diront, comme d'habitude, les psychiatres ne se sont pas tout à fait trompés.
Ce que vous cherchez à faire comprendre à travers votre analyse, Daniel Zaguri, c'est comment on fait pour se déshumaniser de soi et de l'autre ?
On peut voir, on peut repérer chez certains sujets un mouvement qui va vers l'éradication de tout ce qui pourrait ressembler à un sentiment ou à une émotion. Une sorte de blindage, avec la jubilation, la jouissance d'échapper à la condition humaine et à toutes ces émotions qui embarrassent la plupart des humains. Au fond, leur satisfaction n'est pas tant de faire souffrir la victime que d'être au-delà du bien et du mal. C'est des mouvements qu'on repère aussi chez les génocidaires, par exemple, ou chez les terroristes islamiques. Moi, j'ai été très frappé, par exemple, de la façon dont la plupart des sujets évoluaient en face des vidéos de décapitation. Au début... si je puis dire, les premières expériences sont traumatiques, ils sont gênés, ils ont de la pitié, ils sont mal à l'aise, ils sont dégoûtés, ils vomissent. Et puis, petit à petit, parce que quand vous avez le choix entre vous identifier au bourreau et vous identifier à la victime à laquelle on coupe la tête, ben, le choix est assez vite fait. Hein. Donc, petit à petit, avec la légitimation du fait qu'il s'agit d'un chien, d'un mécréant, d'un incroyant, le sujet va se forger une sorte de carapace et en tirer beaucoup de satisfaction. C'est ce que Fethi Ben Slama appelle le surmusulman. Vous savez, c'est toujours le même mouvement. Übermensch, Untermensch, surmusulman, mécréant, surhomme, sous-homme. C'est-à-dire que, à ce moment-là, quelqu'un qui se vit comme étant au-dessus de la condition humaine s'en prend à quelqu'un qui est en deçà de la condition humaine, une chose qui ne mérite aucune considération. Et là, vous n'avez plus aucun débat intime, vous n'avez plus aucune réaction habituelle, vous êtes dans quelque chose qui vous raffermit, qui vous renforce dans votre sentiment, dans votre certitude d'être, de faire ce qui convient que vous fassiez.
Dans les procès des tueurs en série, Daniel Zaguri, c'est encore autre chose. Il y a, j'imagine, toute une mise en scène des familles qui doivent entendre et regarder le coupable, qui sait qu'il va être condamné à une peine. Il se joue là complètement autre chose. À la cour d'appel de Paris, là, vous êtes plusieurs experts à vous exprimer sur Guy Georges. Vous retenez quoi de ce procès ?
Alors justement, j'en retiens cette incroyable attente collective. Mais vous savez, les procès de tueurs en série sont un peu particuliers parce qu'on connaît le verdict d'avance, si je puis dire. Les faits sont tellement énormes que l'intérêt se déplace vers la compréhension de ces processus. Alors, avec quand même quelque chose de très divers. Il y a des familles de victimes qui ne viennent pas au procès, il y a des familles de victimes qui veulent entendre, essayer de comprendre, enfin, comprendre ce qui a pu se passer, des raisons pour lesquelles un être cher a été tué dans des conditions atroces. Et puis, il y a des familles de victimes qui vivent les éclairages qu'on peut donner comme quasiment comme des insultes, comme quelque chose d'insupportable. Je dois dire que ces procès-là n'ont pas été pour moi les plus frustrants, au contraire, parce que l'attente est telle qu'on a vraiment envie d'y répondre. Par exemple, vous m'interrogez sur Guy Georges, j'avais bricolé comme ça, à la dernière minute, une métaphore qui me paraissait rendre compte de ce que je voulais dire. J'ai dit, il y a un epsilon de doute et d'espoir qui nous interdit d'affirmer de façon assurée que cet homme-là, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, sera le même et commettra les mêmes actes. Et qu'il fallait un petit peu d'humilité. Et j'ai été stupéfait de la réaction de cet epsilon. L'idée qu'un médecin sauvegarde un espoir théorique, parce que quiconque a fait des mathématiques sait que l'epsilon, c'est quand même pas grand-chose. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Ça, c'est un premier exemple. Dans le procès Allègre, j'écoutais la radio, je ne me rappelle plus, mais il me semble que j'ai dû y aller au 15e jour. Enfin bon, il s'était déjà déroulé beaucoup de temps. Et tous les jours, j'entendais, va-t-il parler? Va-t-il dire quelque chose? Va-t-il enfin apaiser l'attente des familles de victimes, etc., etc. Et donc, je me suis cru obligé de répondre à cette attente qui me paraît être une attente vaine et dangereuse. Vous voyez, Guy Georges et Patrice Allègre, je dirais que le mieux qu'ils aient pu faire, c'est quelques petits borborygmes, des moments de gêne, des hésitations dans la voix, mais ils n'ont jamais pu répondre aux questions qu'on leur posait. Donc ce que j'ai essayé de dire à la cour d'assises, c'est que celui qui serait capable de dire pourquoi il l'avait fait serait probablement le plus pervers ou le plus menteur. Et c'est d'ailleurs ce qu'a montré le procès de Fourniret, puisque pendant la première partie du procès de Fourniret, on lui a demandé de parler, et pendant la deuxième partie, on lui a demandé de se taire, parce que ce qu'il disait avec une crudité, une cruauté inouïe, était absolument insupportable. Donc, ce qui est important, c'est effectivement d'essayer d'éclairer sous l'angle clinique les attentes du grand public.
Cet homme qui est Guy Georges, c'est une double expertise qui a été rendue au juge Gilbert Thiel, je crois, 97 pages nuancées qui dissèquent les troubles sévères de cet homme, sa personnalité qui était dominée par trois pôles, je crois.
Au moment du procès, nous étions trois. Il y avait mes amis et complices, Henri Grinspan et Michel Dubec. Alors Henri Grinspan avait la charge de tout ce qui concerne le dossier de son enfance, hein, ses placements.
Et sur le désamour, ses parents, la DAS,
voilà,
etc.
Absolument. Et Michel Dubec avait surtout fait la partie médico-psychologique, et moi, j'avais charge de la synthèse clinique. Bon. Alors, ce dont nous avons essayé de rendre compte, c'est de son parcours, c'est-à-dire, nous avons repris sa biographie de façon très complète, nous avons essayé d'expliciter la dynamique des entretiens, et à partir de là, il y avait chez lui une personnalité psychopathique que nous avons développée, l'ensemble des éléments, son instabilité, son impulsivité, son appétence pour l'alcool, les drogues. C'était le type sympa. D'ailleurs, un psychiatre a écrit un livre sur lui. Il le connaissait parce qu'il travaillait avec les marginaux dans les squats. Et puis, ce psychiatre était absolument sidéré quand il a appris que c'était lui, le tueur de l'Est parisien. Donc, il y avait toute une dimension psychopathique. Nous avons essayé de rendre compte de ce que pouvait être la dimension perverse des actes et l'angoisse sous-jacente, tapis, si je puis dire, derrière tout ça, avec un mécanisme qui s'appelle le clivage et qui fait que quelqu'un peut être pseudo-adapté, ne donner aucun signe de violence et tout d'un coup basculer dans des actes inouïs et sidérants. Nous n'avons absolument pas tenu le discours réducteur. Il a commis ces actes parce qu'il avait été un enfant de la DAS. Parce que la réponse, elle est absolument évidente. Tous les enfants de la DAS ne commettent pas de tels actes. Mais bien entendu, c'est, si vous voulez, une expertise, ça doit rendre compte de facteurs complexes. Il y a une histoire, il y a des moments carrefour. Peut-être qu'à certains moments, il aurait pu s'engager vers d'autres voies. Et puis, il y a des conjonctions de facteurs, il y a des bascules. Et puis, une fois le premier acte accompli, c'est ce que j'appelle donc l'éprouvé subjugant du premier crime. Parce que quand un tueur en série commet son premier crime, il ne sait pas qui va devenir un tueur en série. Et c'est à partir de cette expérience subjugante que va se constituer la matrice des actes ultérieurs. Donc, ce que je dis, moi, avec mon modèle, c'est qu'il y a un tripôle, que j'appelle la pondération variable, qui a toujours un clivage, et que certains sont plus psychopathes que les autres, par exemple Allègre et Guy Georges, que d'autres sont plus pervers, par exemple Fourniret et Chanal, et que d'autres, enfin, sont plus proches de la maladie mentale. Tout est affaire de cas, de pondération, les histoires sont différentes, mais les histoires sont différentes à ceci près que, en dehors de quelques malades mentaux, ce sont toujours des histoires carentielles. Quelque chose de très traumatique s'est passé avant même que le sujet ait un appareil psychique susceptible de l'aider à l'intégrer, et que c'est à partir de ces traces-là que, à un moment donné, dans un moment de la vie, le sujet va basculer et passer du traumatisme ancien au traumatisme infligé.
Vous parlez de défense perverse.
Oui, parce que, effectivement, ce qu'on observe le plus souvent, c'est des défenses perverses plus qu'une organisation perverse. Ce qu'on peut voir, j'ai des sujets comme Fourniret, parce que Fourniret, il est resté en liberté très longtemps, il a commis des actes très longtemps, il a donc eu le temps, si je puis dire, de renforcer, de déformer sa personnalité sur un mode de plus en plus pervers.
Vous arrivez très peu à la conclusion, Daniel Zaguri. Lors des procès, que c'est un malade mental, il en existe très peu finalement. Vous avez pris l'exemple de Lucien dans un de vos livres.
Oui, Lucien, où il y a eu un procès de malade mental retentissant, c'est l'affaire Moitoiré. Lucien, c'était un jeune psychopathe qui avait tué, dans un premier temps, une malheureuse femme chez laquelle il avait fait un cambriolage et il avait sodomisé son cadavre, qui même n'est pas banal, et il avait ensuite tué un vieux monsieur avec lequel il était ami, il l'avait décapité et il avait interrogé la tête de ce monsieur posée sur une étagère. Et vous savez, il y a toujours des images qui restent, et moi l'image qui m'est restée de Lucien, c'est celle d'un garçon qui avait la tête dans son sac à dos et qui discutait avec ses copains dans un bar PMU. Vous voyez, donc une image atroce d'une étrangeté absolue. Et donc, j'ai dit c'était un psychopathe parce qu'il avait un premier parcours de vie comme ça, marqué par l'instabilité, les petites perversions. Mais très vite, Lucien a été envahi par des processus psychotiques qu'il ne parvenait plus à contenir. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est passé à l'acte.
Daniel Zaguri, chez les terroristes islamistes, aujourd'hui, c'est pareil, il y a très peu de malades mentaux avérés.
Alors, les sujets mis en examen pour des actes de terrorisme, dont seuls la maladie mentale rend compte de l'acte sont effectivement se comptent sur les doigts de la main. Tout d'un coup, un délirant schizophrène s'empare de l'air du temps et va poignarder ou essayer de poignarder un vigile ou un représentant des forces de l'ordre ou un militaire, par exemple. Donc, les délirants, ils vivent dans le même monde que nous et ils alimentent leur délire par ce qui se passe dans le monde. Donc, les malades mentaux délirants sont très peu nombreux. À côté de ça, il y a toute une gamme de personnalités déséquilibrées, borderline, immatures, psychopathiques, instables, qui ont eu une première vie marquée par la délinquance et la drogue, et puis qui vont se racheter en quelque sorte une deuxième vie dans la soumission à des exigences pseudo-religieuses. Je dis pseudo-religieuses parce que on s'aperçoit qu'ils sont d'une très grande inculture religieuse, et c'est ce que disent tous les imams qui les rencontrent en prison. Bon. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que des sources très diversifiées, mais que ces sources vont aboutir à une espèce de voie finale commune. C'est-à-dire que ils vont finir par tous se ressembler. Ils ont les mêmes formules, ils rient aux mêmes choses. Donc ils ont comme ça une soumission à un groupe totalitaire, mais une soumission absolue. C'est-à-dire qu'ils sont des clones. À l'un d'entre eux, je disais, mais ça vous fait rien d'être... Il disait non, qui est au contraire. Et ils y trouvent surtout un sens à leur vie. Un sens à leur vie et un sens à leur mort. L'idéal, tout d'un coup, même si c'est un idéal mortifère, vient exalter leur vie. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de la déradicalisation. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui ont connu un premier parcours de vie qui est marqué par l'échec, par l'instabilité, par après coup ils estiment qu'ils étaient eux aussi qui vivaient comme des mécréants, où la fille dira « je vivais comme une pute », et dans un deuxième temps, ils se rachètent une morale. Donc si vous voulez, la déradicalisation, ça veut dire passer de l'Olympe au plancher des vaches, ça veut dire retourner à une existence triste alors qu'on a, si je puis dire, côtoyé le grandiose qui donnait un sens, une mission à leur existence. Donc si vous voulez, il y a là un des enjeux de la déradicalisation.
Merci Daniel Zaguri, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Daniel Zaguri. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.